Un crime, Georges Bernanos, deuxième partie, chapitre 2. Eh bien, Madame Céleste, que voulez-vous que je vous dise? Je n'y étais pas, moi. Sûre, ma pauvre Fémie, sûre. Mais enfin, vous êtes venue cette nuit-là quand même. Je vous ai vue, je vous ai parlé, ça me rassure. Autrement, je croirais d'avoir rêvé. C'est parce que vous y pensez trop, Madame Céleste. À quoi bon se tourner les sangs? Laissez donc faire la justice. Ah oui, parlons-en de votre justice. Me voilà-t-il pas seul ici maintenant pour répondre de tout? Jusqu'à ce morveux d'enfant de cœur qu'ils ont laissé filer, paraît-il. Oh, vous pouvez rire, ma belle. Pour moi, il a ensorcelé notre curé, ce Nicodème. Dès le lendemain matin, il n'était pas plutôt entré dans la chambre avec sa tête de rat qu'ils causaient tous les deux comme des camarades. L'après-midi, de même. Le soir, de même. Lorsque j'entrais, c'étaient deux pères Dieu qui se levaient ensemble. Vous auriez dit un rendez-vous d'amoureux. Et des mines. Qu'est-ce que vous allez penser là? Je me comprends. Des garçonnets dans son genre, c'est tout autant malicieux que des filles. Il n'y a pas plus vicieux, plus caressant. Jusqu'au petit juge qui a l'air d'en être assauté. Moi, je ne suis qu'une vieille femme, ma fine. Mais j'aurais pris le gamin par les oreilles et je vous l'aurais fouetté avec une bonne poignée d'ortie, à l'ancienne mode, histoire de lui faire retrouver sa langue. Pour dire quoi? La vérité. Voilà un galopin que je laisse au presbytère passer 11 heures, en tête à tête avec notre curé. Le lendemain, plus de curé. Qu'est-ce qu'il en a fait du curé? Il ne l'aura pas mangé, votre curé, Madame Céleste. Et justement, le brigadier disait, pas plus tard qu'hier au soir, chez les demoiselles Simplicie, « Votre brigadier, il est saoul à longueur du jour, ma pauvre Fémie. » N'importe. Il disait qu'à son idée, le petit juge laissait courir le furet, mais sans lâcher la ficelle. Une ruse à eux, quoi. Faut d'ailleurs convenir que ce curé-là ne fait rien comme les autres, avouez. C'est parce qu'il n'est pas comme les autres, ma fine. Voilà 30 ans que je sers. Je connais mon monde. Des prêtres pareils, il n'y en a pas 10 dans le diocèse, peut-être. J'ai pensé du premier coup. Celui-là ne mettra pas longtemps ses pieds dans les souliers du curé de Mégère, sûr. Possible. Vous ne voudriez pas que je dise grand-chose d'un homme que j'ai vu 5 minutes. N'empêche que nos gens lui trouvent un drôle d'air, trop délicat, trop gracieux. Et tenez, le brigadier prétend qu'il ressemble à l'instituteur de Capdevieille ainsi. Le visage de Madame Céleste devint pourpre. Vous devriez avoir honte de parler d'un dégoûtant qui a été révoqué pour mœurs, espèce de dévergondé. A-t-on idée de faire rougir une femme de mon âge? Ça ne vous portera pas bonheur. Mais patientez encore un peu. On vous en donnera, ma fine, des gros curés montagnards, tout juste capables de boire et de manger, de vrais bouviers. Un enfant du bon Dieu comme celui-là n'est pas fait pour des rustos de paysans qui n'ont que le mal en tête. Si doux, si tranquille, si respectueux. À Grenoble, les belles dames de Sainte-Eulalie et de Saint-Marc, elles vous l'auraient gâté, bichonné. Ça rapporte gros à l'évêque, aller des prêtres comme ça. Et irréprochable, j'en mettrais ma main au feu. D'ailleurs, suffit de le voir, de l'entendre. Il donnerait de l'esprit à une bête, cet homme-là. Avant seulement qu'il ait ouvert la bouche, on dirait que sa pensée est déjà dans vous, dans votre poitrine, qu'elle vous a sauté dans le cœur. Et les mots pour lui répondre sortent d'eux-mêmes. À croire qu'il n'a qu'à leur faire signe, les appeler. Il a l'air de charmer des colombes, comme le vieil Italien qui est venu ici l'an dernier. Ben, Madame Céleste, sûre toujours qu'il a su vous délier la langue, un avocat ne causerait pas mieux. Quand même, les gens n'ont pas tort de se plaindre. Un curé qui leur arrive passé minuit, dans la carriole de l'idiot, avec la provision de châtaigne, et qui disparaît sans avoir seulement montré le bout de son nez, laissant tout le village dans le souci. Vous pouvez expliquer ça, vous? Et si c'était la justice, ma belle? Croyez-vous qu'il n'ait pas plus d'un tour dans leur sac pour se débarrasser d'un homme qui voit trop clair? Autrement, qu'est-ce qu'il serait venu faire ici, ce petit juge, 2 heures durant? J'ai tâché d'écouter à travers la porte, je ne le cache pas, je m'en vante. Ah, bien oui, autant vouloir entendre pousser l'herbe. Laissez dire. Un magistrat qui n'a rien à se reprocher ne parle pas comme une fille en confesse. Lorsqu'il est sorti, j'ai fait exprès de le reconduire jusqu'à l'enclos. Pas moyen seulement de voir la couleur de ses yeux. Et le curé? Tout renfrogné, tout triste, la mine d'attendre quelqu'un. Et en effet, 10 minutes plus tard, voilà qu'arrive l'enfant de cœur qui me passe quasi entre les pattes dans le couloir. J'ai cru qu'il sortait du plancher, cette vermine. « D'où viens-tu ? » que je lui dis. Il avait sa culotte trempée, la main pleine de cambouis. « Tâche au moins de ne pas poser ton derrière sur notre fauteuil barbouillé. » S'il m'avait seulement répondu de travers, je l'aurais fichu dehors. Il n'y a pas de curé qui tienne. Mais c'est un garçon rusé, ma fine, et qui tient sa langue quand il faut. N'importe. Sûr qu'un bon coup de manche de mon balai à travers sa face de rat eût épargné bien des malheurs. Alors, vous croyez que le juge et lui... Deux têtes sous le même bonnet, ma chère. La preuve, c'est que leur besogne faite, le barbouillé court toujours, Dieu sait tout. La vieille croit à un crime, ma chère, elle est comme folle. Laissant tomber sa voix sur les dernières syllabes, elle croisa les deux mains sur son ventre, les yeux mi-clos, la pointe de la langue dépassant les lèvres, dans l'attitude à la fois recueillie et gourmande qu'elle prenait chaque soir, lorsque les pieds posés sur la chaufferette d'où montait l'odeur familière de ses pantoufles roussies, elle commençait la lecture d'un roman du Jardin des Modes. « Il y a de la politique là-dessous, » reprit Madame Céleste. « Les assassins peuvent courir. D'ailleurs, savez-vous au juste ce qu'elle était, vous, Notre-Dame de Mégère ? Si ce que l'on raconte est vrai, voilà une femme qui a fait le tour du monde, visité les sauvages, roulé sur les mers, et riche. Drôle d'idée, ma belle, de venir fixer ses jours au fond d'un méchant petit village de rien. Et la nièce, donc, l'héritière. On ne l'a jamais vue ici, sa nièce. Je veux bien qu'il y ait eu des brouilles. Alors pourquoi qu'elle hérite ? Madame Louise répétait partout que le magot irait aux hospices, ou même à Monseigneur, bien que la vieille ne fût guère dévote. Pensez qu'elle devait travailler pour l'évêque, la gouvernante, une ancienne religieuse. Ces gens-là se tiennent comme les doigts de la main, tout pareil. Pas vrai, petite ? Elle enveloppa du regard sa confidente avec une espèce de tendresse, car leur amitié, traversée de tant d'orages, se retrempe sans cesse dans la complicité des mêmes plaisirs. Vous savez qu'elle est descendue chez Madame Courtois, la demoiselle de Châteauroux ? Dit Philomène, les yeux de plus en plus brillants, la bouche sèche. Elle n'a pas voulu coucher sous le même toit que la morte, je comprends ça. Madame Courtois prétend qu'elle a l'air bien simple, bien honnête, mais pas trop portée sur la conversation. Paraîtrait qu'elle n'ouvre pas la bouche. Et pour cause, si elle l'ouvrait, ceux qui tiennent les ficelles dans la coulisse trouveraient tout de suite le moyen de la lui fermer. Laissez faire, ma belle. Une fois le magot en sûreté, Dieu sait où, les journaux s'occuperont d'autre chose, le juge filera vers Grenoble, l'affaire sera classée, comme ils disent, et vous n'entendrez plus jamais parler de la demoiselle de Châteauroux, ni peut-être seulement du curé de Mégère. Oh, Madame Céleste, vous ne croyez tout de même pas qu'ils l'ont. Et pourquoi qu'ils ne l'auraient pas ? D'une manière ou d'une autre, ce ne sont pas les moyens qui manquent de se défaire d'un homme sans le tuer. Celui-là savait trop de choses, Philomène. Il les savait ou il les devinait, il comprenait tout d'un regard. Je ne suis qu'une vieille femme, mais si j'avais pu prévoir, je me serais plutôt mise en travers de la porte et je lui aurais dit « Malheureux, une fois parti, vous ne reviendrez plus, ou vous ne reviendrez que lèvres cousues. Parlez maintenant ou jamais. La vérité n'a qu'un temps. » Mademoiselle Philomène haussa les épaules sans répondre. Depuis un moment, elle ne quittait pas des yeux les trois rubans de route visibles à travers les arbres et que la brume du soir, doucement balancée par les remous de la vallée, couvrait et découvrait tour à tour. « Le juge » fit-elle tout à coup. « Madame Céleste, le petit juge !»« Madame, » dit le magistrat, « l'absence de monsieur le curé de Mégère me force à prendre certaines mesures, d'ailleurs provisoires, et qui doivent garder un caractère de discrétion. » L'opinion s'alarme si vite. Bref, il serait préférable que cette maison restât sous la garde d'une personne sûre, mais dont la présence ici n'attira l'attention malveillante de personne. Nous avons pensé à vous, n'est-ce pas, Grignol ? Il avança d'un pas et découvrit son compagnon debout sur le seuil. « L'inspecteur Grignol, » fit-il d'une voix brève. « Et maintenant, hâtons-nous. Il ne nous reste guère que 10 minutes pour la petite vérification. » Du menton, l'inspecteur désignait à son chef la vieille bonne qui, sans répondre, regardait tristement à travers les vitres s'effacer la silhouette familière de Mademoiselle Fémie. Le petit juge lui répondit d'un clin d'œil. « Nous causerons d'ailleurs de cela plus tard, n'est-ce pas, Grignol ? Il est possible que vous redoutiez un peu de coucher seule la nuit dans une maison vide, madame. N'importe. Pour l'instant, nous vous demandons de vouloir bien nous accompagner jusqu'à la chambre occupée par monsieur le curé de Mégère la nuit du crime. » Il passa devant. L'inspecteur marchait sur ses talons. « Lorsque monsieur le curé est venu frapper à votre porte, madame Céleste, dormiez-vous ?»«
Oui, monsieur. » »«
À votre entrée dans cette pièce, la fenêtre était-elle ouverte ?»«
Je crois que oui. » »«
Oui, monsieur. » »« Aucune importance, interrompit l'inspecteur. En l'absence du témoin, il me semble que nous devons adopter l'hypothèse la plus favorable, je veux dire, celle qui s'accorde le mieux avec la version qu'il a donnée. » Il alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit et s'y accouda, le buste penché en dehors. « Mettons les choses au mieux, dit-il d'un ton goguenard. Nous pouvons supposer que monsieur le curé de Mégère a l'habitude de rêver la nuit au clair de lune, même avec 10 degrés au-dessous de zéro. » Il sifflota entre ses dents, de l'air d'un homme qui s'acquitte d'une formalité jugée d'avance inutile. À l'autre extrémité de la pièce, le magistrat consultait sa montre. « Ça y est, fit-il enfin. 4h47, exactement. » « Attendons la seconde expérience, répliqua paisiblement l'inspecteur, sans prendre la peine de se retourner. « Madame devrait même fermer la porte. » Son ton exaspérait visiblement le petit juge, qui après un moment remit sa montre au gousset en haussant les épaules. « Comprenez ce qui se passe, vous » grogna-t-il au nez de la vieille bonne, devenue blême. « Non ? » ?»« Eh bien, j'ai voulu me rendre compte, avant l'expérience officielle, savoir par moi-même s'il est possible d'entendre de cette chambre, oui, madame, de cette chambre, la détonation d'un coup de pistolet tiré dans le parc. Et pas un seul coup, madame. 5, ni plus ni moins. Ça vous étonne ?»«
Non, monsieur, » balbutia la pauvre femme, terrorisée.
« Ça devrait vous étonner. » « Car enfin, sacrebleu, si vous n'avez rien entendu l'autre nuit, de quel droit avez-vous mis tout un village sans dessus-dessous, mille noms d'une pipe ?»«
Ce n'est pas moi, monsieur, à preuve que je dormais, monsieur le curé. »«
Laissez-moi tranquille avec votre curé. »
Il lui tourna le dos, prit lui-même au piège de la colère feinte dont il venait de masquer son embarras et sa déception. Mais la vieille, demeurée seule au haut de l'escalier, reprit soudain courage et grogna d'une voix étranglée de frayeur et de colère. « mon curé en vaut bien d'autres, et la justice ferait peut-être bien aussi de s'occuper d'un certain galopin, enfant de sorcière, d'un mal appris, d'un mal avisé capable de tout et qui... » Le reste se perdit dans sa gorge. Ils marchèrent un moment côte à côte en silence. Le chemin qu'il suivait était ce même sentier qu'avait dû descendre, en pleine nuit, le curé de Mégère. Un peu avant la route, la pente, plus escarpée encore, presque à pic, lavée par la pluie, n'est plus qu'une dalle ruisselante. Ils la gravirent avec peine, puis s'arrêtèrent pour souffler, laissant errer distraitement leur regard sur le triste paysage décoloré. De cette place, à leur grande surprise, le château reste invisible. Ils n'aperçurent que les cimes des plus hauts arbres du parc, sur lesquels s'enroulait et se déroulait, comme à l'ordinaire, le vol noir des corneilles. « Vous triomphez, mon cher, » dit enfin le juge aigrement. « Mon Dieu, non, » soupira l'inspecteur. « Cette expérience ne vous apprend rien, je suppose. Qu'il ait menti, cela ne faisait déjà plus doute pour moi, ni pour vous. Je regrette que vous ne l'ayez pas vu. » « Je l'ai vu. » Autant qu'on peut voir un homme par un soir un peu sombre à travers la haie de son jardin. Mais c'est votre faute, patron. Je venais de débarquer, hein, et j'ai reconnu de loin votre figure des mauvais jours.
Vu et entendu, reprit le petit juge d'une voix pensive.
Ben, dit l'autre, je suis un type assez grossier dans mon genre. D'une manière, l'idée n'était pas si mauvaise de le laisser continuer seul son bonhomme de chemin. Il aurait pu aussi bien nous conduire quelque part. Et d'ailleurs, on n'a pas toujours le choix. La dernière gaffe à faire, c'est de vouloir coincer tout de suite un témoin, de le forcer à se contredire trop tôt. Quand même, pour parler franchement, j'aurais moins ménagé celui-là. Oui, car maintenant...
Maintenant... Oh, vous savez, je ne tiens pas autrement à la supposition. Mais enfin, si le personnage est comme vous le pensez, pris entre deux devoirs inconciliables...
Dame, quand on roule à bicyclette,
le long d'une rivière, par une nuit noire. Ils avaient repris leur marche et descendaient de nouveau vers le village, à peine visible à leurs pieds, dans la brume. Le petit juge s'arrêta brusquement. « Grignol, mon vieux, je me sens réellement malade. »«
Allons donc, un peu de grippe. » »«
Je parle sérieusement, » reprit le magistrat. « Tenez, si le mot de pressentiment a un sens, je puis m'attendre au pire. »
« Les pressentiments, c'est une blague, » affirma l'inspecteur.
« Pour moi, patron, règle générale, les tuiles me tombent dessus lorsque je m'y attends le moins.
Alors ?»«
Possible. Vous devriez quand même cesser de faire le malin. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, Grignol, et si c'est la dernière, vous regretterez d'avoir perdu votre temps à tourner autour du pot. Voyez-vous, dès le commencement de cette sacrée affaire, j'ai eu l'impression, une impression singulière, Grignol. » L'impression d'une porte qui s'est refermée derrière moi, pan, me laissant dans le noir.
Tout seul, quoi ?
Eh bien oui, justement. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si la place n'était pas déjà occupée par un autre. Alors j'écarquille les yeux, j'allonge le bras, je tâte par-ci, par-là, mais prudemment, trop prudemment.
Oui, ça ne vous dirait rien de fourrer tout à coup le doigt dans un nez, dans une bouche, pois.
Ça me rappelle qu'en 1926, à Besançon, « Ne vous rappelez pas, inutile. Je disais que vous devriez cesser de faire le malin. J'ai une idée, vous avez la vôtre, parfait. Au début d'une enquête, il n'est pas mauvais de travailler dans deux directions différentes. On peut très bien finir par se rencontrer. L'essentiel est de ne pas se gêner. Or, vous arrivez ici après moi. Vous trouvez l'ouvrage en train. Ne soyez pas aussi bête que les autres. N'attendez pas que la chose tourne mal pour mettre l'échec à mon compte et... Je ne vous demande pas de me dire ce que vous auriez fait à ma place. Ça n'a pas d'importance, mais seulement ce que vous n'auriez pas fait.
Dame, patron, ce qui est fait, si vous voulez mon opinion, ça n'est pas gros.
Merci. Pas possible autrement, que voulez-vous ? À première vue, l'affaire paraît claire, un crime crapuleux quelconque. Deux vieilles femmes et une boniche dans une maison comme celle-là, faut avouer qu'il y a de quoi tenter un mauvais gars. D'ici à la frontière, sans les chercher, je me charge de trouver en 24 heures 10 gaillards capables du coup. Des réfugiés politiques, qu'ils disent.
Pourquoi riez-vous, patron ?
Pour rien, par sympathie. Je me suis répété ça tant de fois, exactement. Lorsqu'on a le nez dessus, la petite histoire ne paraît pas plus bête qu'une autre. Mais sitôt qu'on se recule un peu, à la manière des amateurs de tableaux, eh bien, que voulez-vous, ça ne va plus. Non, ça ne va plus. Et le type trouvé dans le parc, qu'est-ce que vous en faites ?
Règlement de compte, patron.
Peu, si vite ? D'accord. Libre à vous de supposer que le va-nu-pied n'a été que l'instrument. L'exécutant, quoi ? Un garçon débrouillard a toujours ça sous la main. Le coup fait, il aura trouvé plus mariole de le supprimer. Bon, et après ? Filer en avion, je suppose ?
L'inspecteur pinça les lèvres.
Maintenant, patron, sait-on seulement au juste à quelle heure le crime a été commis ? Alors, il ne faut pas si longtemps en automobile pour...
Quelle auto ?
Pas trace d'auto sur le chemin où il ne passe pas 40 charrettes par an. Elle aurait donc attendu sur la route ? Et pour remonter la côte, à travers tout le village ?
Personne ne l'a vu ni entendu, votre auto, mon cher.
Et quelle place faites-vous dans votre scénario au témoignage du voiturier ?
Bah, un ivrogne. Il s'est d'ailleurs rétracté le lendemain pour revenir à sa première version 24 heures après. Pas sérieux.
Écoutez, Grignol, vous parlez comme notre procureur. Sérieusement, je ne vous ai jamais connu si prudent, si sage. Vous mériteriez d'être choisi par la préfecture de police pour les communiquer à la presse, mon cher. Mais j'attends encore une réponse à ma question. Qu'auriez-vous fait ou que n'auriez-vous pas fait à ma place ?
J'aurais cherché dans la rivière.
Pourquoi pas ? Je ne l'ai vu qu'une minute ou deux, votre curé, mais il m'est resté dans l'œil. Nerveux pique une femme, ce gars-là. Tiendrait pas le coup.
Quel coup ?
Si je le dis, vous allez chanter. N'empêche qu'ils nous ont filé entre les doigts tous les deux, le poisson, l'appât et la ligne. Ni l'un ni l'autre n'ont mis les pieds à Saint-Romain.
Possible.
Possible aussi que le curé de Saint-Romain...
C'est que vous ne le connaissez pas, franc comme l'or. Nous avons causé ce matin en camarade.
Il n'a pas revu son copain depuis la matinée du 6. Et justement, patron, je me demande pourquoi votre ratichon nous a caché cette visite-là.
Caché. Vous oubliez, mon cher, qu'il n'a jamais été question d'un interrogatoire en règle.
Admettons que je n'ai rien dit. Mensonge par omission, simplement. Mensonge, mensonge. Dame, un de plus. Car enfin, vous devez être bien près de convenir maintenant qu'il a inventé le fameux coup de feu dans la nuit, un vrai titre de roman policier.
Pas sûr. L'expérience a été bâclée. Recommençons là. D'ailleurs, je me fiche des expériences, et quant au rapport d'expert, Dieu sait où je voudrais les mettre. Tout de même, s'il a menti, faut lui trouver une raison. Le voilà donc qui descend ce diable de chemin, ahuri par le voyage, embêté de son retard, à tâtons, par une nuit noire et son fameux sac à la main. Naturellement, il n'a pas osé dire au voiturier qu'il avait peur. Et puis, en haut, il a aperçu la lumière. Il s'est cru déjà dans sa chambre en train de lire son bréviaire. Voilà donc mon bonhomme qui s'embrouille. Il file à droite au lieu de tourner à gauche. Il commence à se monter la tête. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de croire qu'il a un revolver dans son sac? Ça peut être utile à un petit curé nerveux, pas trop solide, et qui sait qu'il habitera une maison isolée, dans un sacré pays sans chemin de fer, au bout du monde. Il tire donc son revolver et le garde à la main, histoire de se rassurer. Oui, à ce moment, un pauvre type se présente et il lui loge une balle dans la peau, sans lui avoir seulement souhaité le bonsoir. Se présente. Il y a plus d'une manière de se présenter, patron. Le gars qui s'amenait n'avait pas la conscience tranquille, vous pensez? Le petit curé a dû comprendre tout de suite qu'il ne venait pas lui demander sa bénédiction. Et alors? Alors, chacun file de son côté. Le type va crever plus loin. Le petit curé dégrisé retrouve son chemin du coup. On le retrouve toujours quand on ne le cherche plus. Dans la conversation avec la vieille, il se renseigne, il comprend que le gars sortait du parc de Mégère, qu'il a peut-être fait un sale coup au château, que son devoir aura été de donner l'alerte. Et il la donne, l'alerte, avec une heure de retard. Ça vaut toujours mieux que rien, et ça a aussi l'avantage de lui épargner des explications. Idiot, mon cher. Et le voiturier? Il n'a pas entendu le coup de feu, le voiturier. Si, mais s'il est idiot tous les jours, il était saoul ce soir-là. Un ivrogne a des idées. La chose lui a paru louche, et il a inventé l'histoire de la poule fantôme pour ne pas mettre en cause le curé. Du perron des quatre tilleuls, une des filles Simplicie les regardait venir. À leur approche, elle tourna le dos, rentra brusquement dans sa boutique. Presque aussitôt, le brigadier apparut entre les arbres de la place, dont il fit discrètement le tour avant de revenir ostensiblement vers son chef, tournant le dos à son point de départ.
« Il ne sort plus du cabaret, celui-là, » fit le magistrat. « Les gens racontent qu'il courtise la plus jeune des filles Simplicie. Dame, pour un veuf qui prendra sa retraite dans 5 ou 6 ans, l'affaire n'est pas si mauvaise. « Dites donc, » reprit-il en élevant la voix, « d'où venez-vous, mon ami ?»«
Monsieur le juge, il y a chez vous un curé qui veut vous voir d'urgence. »«
Eh bien, Grignol, qu'est-ce que vous en pensez? Sommes-nous servis ou non? Tout le diocèse passera dans mon bureau, devant ma table, évêque en tête. J'ai envie de demander qu'on nous adjoigne un docteur en théologie et une douzaine de chanoines casuistes, pas vrai ?»
Au premier regard, le curé de Sommelièvre apparaît comme l'un de ces doux qui posséderont la terre, mais qui doivent en attendant se contenter d'y voir prospérer des animaux si différents d'eux-mêmes qu'ils ne sauraient seulement oser leur rappeler une promesse dont l'accomplissement risquerait d'ailleurs de les prendre tragiquement au dépourvu. « Pigre, un poids lourd, » dit l'inspecteur à mi-voix. Le prêtre leur tournait le dos, barrant les 3 couloirs de ses fortes épaules, et la double saillie des omoplates faisait luire dans l'ombre le drap usé de sa douillette. Au grincement des marches, il se retourna et sa large face essaya vainement de traduire un autre sentiment que celui d'une surprise innocente et qui ne mourrait qu'avec lui.
« Monsieur le juge, respect, religieux respect. »
Il s'inclinait naturellement devant l'inspecteur qui s'effaça, laissant son interlocuteur tête à tête avec le magistrat. La conscience de sa méprise amena sur les lèvres du prêtre un sourire déjà résigné. « Entrez donc, » fit le petit juge. « Prenez la peine de vous asseoir. » Mais le curé de Sommelièvre se contenta d'appuyer sur le dossier de la chaise une main rose et lisse. « Sortez, Grignol, » dit le magistrat, visiblement exaspéré. « Monsieur le curé, » reprit-il, dès que la porte se fut refermée sur son interlocuteur, « excusez mon impatience. » Il n'y a eu déjà dans cette affaire que trop de malentendus, auxquels je me permets de dire que monsieur votre confrère, actuellement absent de Mégère,
n'est pas étranger. Si donc, comme je le suppose, vous avez quelques communications à me faire, je demande qu'elles soient aussi nettes et franches que possible. Sinon, je me verrai obligé de vous prier d'attendre une convocation et je procéderai, le cas échéant, à un interrogatoire en règle, recueilli par mon greffier et signé de votre nom. » Le visage du curé de Sommelièvre exprima une déception sans bornes. « C'est que, finit-il par articuler d'une voix à peine distincte, je ne suis qu'un simple intermédiaire, voilà le mot que j'attendais. Ici, personne ne se résigne à voir comme tout le monde, avec ses propres yeux. On connaît, on a rencontré quelque part, on a vaguement entendu parler d'un tiers qui, lui, j'en deviendrais fou, sacrebleu. Eh bien non, monsieur le curé, mille fois non. Dans ces conditions, j'aime autant que vous gardiez votre témoignage pour vous. Allons, de qui s'agit-il ? » La question, si brutalement posée, prit le malheureux prêtre au dépourvu. « De Madame Monprofit, la propriétaire de l'hôtel du Pigeonnier à Saint-Romain. Madame Monprofit était jadis ma paroissienne. Elle m'a fait visite avant-hier à Sommelièvre. Avant-hier ? Ces déclarations ne paraissent pas vous avoir beaucoup frappé. » « Sur le moment, non. Mais j'ai appris hier soir, par un de mes confrères, qu'un de vos honorables témoins prétend avoir vu, a parlé d'une femme qui... » L'excitation nerveuse du petit juge faisait place à cette espèce de torpeur presque heureuse qui annonce les grands accès de fièvre, et tandis que le sang battait à ses tempes, il ne pouvait détacher les yeux des larges joues de son interlocuteur que l'émotion marbrait de pourpre. « Je pense que vous voulez parler du voiturier. Votre honorable témoin est un ivrogne, un simple ivrogne. Je l'ignorais. La chose m'avait donc un peu préoccupée, je l'avoue. Elle s'accorde curieusement avec le petit fait qui m'a été rapporté par ma paroissienne. Car vous savez sans doute que monsieur le curé de Mégère... Un instant. Vous le connaissez, vous, le curé de Mégère ? Non pas. Monsieur le curé de Mégère est nouveau venu dans le diocèse. J'ai seulement entendu longuement parler de lui, hier au soir, par mon confrère de Saint-Romain, chez lequel vous n'ignorez pas qu'il a passé une heure dans la matinée le jour du crime. Venant de Grenoble par le premier train, le train ouvrier, il a cru pouvoir s'arrêter à Saint-Romain et reprendre le train suivant, ignorant certainement que ce train n'assure pas la correspondance de la Patache. Qui vous a donné ces renseignements ? Monsieur le curé de Saint-Romain, hier au soir, justement. Monsieur le curé de Mégère et lui, son ancien camarade du séminaire. J'ajoute même qu'il a trouvé son ami nerveux, inquiet. Il semblait être sous le coup d'un ennui récent et n'osait y faire que de brèves allusions, très réticentes. Ce sont les propres paroles de mon confrère, monsieur le juge. Quelles allusions et à quoi ? À des responsabilités qu'il attendait, auxquelles il ne se sentait pas préparé, qui le prenaient au dépourvu. Il s'est plaint aussi de... Mais je ne sais pas si je dois... Vous devez, monsieur, fit le petit juge âprement. Nous ne discourons pas ici d'un cas de conscience imaginaire. Il y a deux morts, monsieur. Monseigneur passe pour assez avare. Le diocèse est si pauvre. Le curé de Mégère se plaignait qu'il accepta trop facilement des legs, des dons. Et, chose plus surprenante encore, il a demandé s'il était vrai que la dame de Mégère eut l'intention de léguer tout son bien aux bonnes œuvres. Tiens ! La brusquerie de l'interruption fit sursauter le curé de Sommelièvre, et les deux hommes restèrent un moment silencieux, détournant ensemble la tête, comme s'ils craignaient d'échanger un regard. Revenons à votre déclaration du début, si vous le voulez bien, reprit le petit juge. Vous disiez que Madame Monprofit... J'y arrive. Donc, en descendant du train, monsieur le curé de Mégère est descendu à l'hôtel pour y prendre une tasse de café. Allant au presbytère, l'hôtel était sur sa route, et par ce temps humide et venteux... Bref, il a demandé l'annuaire du chemin de fer et causé avec ma paroissienne. Leur entretien s'est trouvé interrompu par l'arrivée d'une personne... D'une cliente connue ? Oui et non. J'ai cru comprendre qu'elle était déjà descendue deux ou trois fois à l'hôtel pour peu de temps. Bref, cette personne alla s'asseoir non loin du curé de Mégère, et ma paroissienne s'étant absentée un moment, fut très surprise de les retrouver l'un et l'autre si absorbés par une conversation animée qu'elle s'éloigna de nouveau par discrétion. Mais sa surprise fut plus grande encore de les voir sortir ensemble et s'éloigner sur la route du presbytère. Rapprochant ce fait de celui rapporté par votre honorable, par le voiturier, je me demande si... Allons, allons, il faut s'entendre. Ce n'est pas votre confrère qui a été assassiné. »
Sans doute, sans doute. Mais il a disparu depuis et les circonstances de ce départ que la malignité ne manquera pas d'interpréter comme une espèce de dérobade. On peut croire qu'il a été attiré dans un guet-apens, monsieur le juge.
Est-ce l'avis de monsieur le curé de Saint-Romain ?
Oh, une simple hypothèse.
Entendu. Je le convoquerai demain.
Permettez, permettez. Je ne pense pas qu'il puisse se rendre si tôt, du moins, à votre convocation. Il a dû partir ce matin, appelé par monseigneur.
Filé à Grenoble, quoi ? Hurla le petit juge hors de lui. Pourquoi pas à Lille, en Flandre ? Sacrebleu, sacrebleu. Les courtes plaisanteries sont les meilleures, monsieur. La justice aura le dernier mot, monsieur.
À chaque parole articulée de cette voix de tête qui avait déconcerté tant de témoins, arrêtée sur tant de lèvres, à l'instant où se court la dernière chance du crime, le non-sauveur, le curé de Sommelièvre reculait vers la porte. Il s'y heurta sur le seuil à Grignol haletant.
« Patron, commença l'inspecteur, le magistrat tressaille toujours à ce mot grossier auquel son oreille ne peut se faire et qu'il ne tolère d'ailleurs jamais en public.
« Vous » dit-il.
Pourtant, il n'acheva pas. En certaines circonstances, généralement décisives, sa timidité naturelle, soigneusement cachée d'ordinaire, le laisse brusquement sans défense.
« Rentrez d'abord, » fit-il, radouci.
L'énorme silhouette du curé de Sommelièvre s'engageait déjà dans l'escalier, d'où montait un bruit de sanglots que recouvraient, par intervalles, les deux voix si étrangement jumelles des demoiselles Simplicie.
« Ils me feront crever, vous entendez, Grignol ?»«
Pas le moment de blaguer, » dit l'inspecteur livide. « La petite bonne est en bas, elle vient du château. Paraît que l'autre vieille est morte ou en train de claquer. Quelle affaire !»
La voiture les conduisit jusqu'à l'entrée du parc, mais ils durent monter à pied le chemin défoncé par l'hiver et qui éclate chaque automne sous la dernière poussée, plus sournoise, des énormes racines de pin, musclées comme des bêtes.
« Elle n'avait rien voulu manger ce matin, ni à midi, rien !» disait la petite servante, reniflant des larmes imaginaires. « Elle est restée dans la chambre. J'ai voulu faire la couverture. La porte était fermée en dedans, mais probable que Madame Louise avait oublié de pousser à fond le verrou du cabinet de toilette. En poussant, voilà que je suis rentrée. Couchée dessus son lit, en travers qu'elle était, pauvre dame. Le pis, comme pour l'autre, c'est que je voyais ses yeux grands ouverts. Oui, monsieur. C'est pas croyable. »
Le docteur, venu par les pâtures, les attendait au haut du perron. « Rien à faire, dit-il. Une injection massive de morphine. 3 ampoules sur la table de nuit, et j'ai retrouvé la 4e dans le lit, sous ses cuisses.
De la morphine ?
Oh, ne vous frappez pas. C'était une habituée de la drogue.
Ces vieilles-là, voyez-vous,
ça tient parfois mieux le coup que les jeunes. Le suicide n'est pas sûr. Possible qu'elle ait seulement forcé un peu la dose. Il y a des cas de saturation sournoise, traître en diable. Le système nerveux réagit mal, l'euphorie tarde à venir, ils en remettent et le cœur s'effondre. »
Le petit juge s'approcha du lit en silence, ramena les couvertures sur les jambes nues et s'appuya au mur pour ne pas tomber.
« Qu'est-ce qui vous prend, mon cher ? » fit le docteur avec une compassion ironique.
« Ouvrez la fenêtre, monsieur Grignol. »
Il fixa plus attentivement la face marbrée, les oreilles pourpres, le regard à la fois épuisé, presque hagard, mais flamboyant. « Dites donc, ça ne va pas ?» Ses doigts se refermaient déjà sur le poignet d'un geste professionnel.
« Une fièvre de cheval, mon bon. Vous feriez mieux d'aller vous coucher. »
« Un moment, » fit le petit juge, qui sentait monter de ses reins, tout à l'heure glacé, un feu sombre dont il croyait voir le reflet au fond de ses globes oculaires douloureux, à chaque mouvement trop brusque des paupières. Il montrait du doigt un de ces meubles minuscules, presque invisibles, à l'angle le plus obscur de la pièce.
« Donnez-moi l'enveloppe, Grignol. De la lumière, sacrebleu !»
L'inspecteur tira sa lampe électrique, et tandis que le docteur feignait d'examiner discrètement la seringue pravasse brisée qu'il tournait et retournait entre ses paumes, ils lurent ensemble. « Que la justice n'inquiète personne au sujet de l'âme, que je me donne libre, tous les coupables, roche, immobile du crime, interrogez M. Sotmoche. Femme dure, injuste, emportée secret dans la tombe.
La justice devra fermer la bouche de certaines personnes dont la langue distille un venin pire que celui de la vipère. Expiation, réparation et expiation, pour tous. Silence, curé de Mégère, couvent, suicide. Fin, honneur au curé de Mégère, honneur à ce martyr.
Drôle de charabia, fit Grignole.
Mais le petit juge lui arracha le papier des mains et marcha en chancelant jusqu'à la cheminée pleine de cendres dont il fit glisser entre ses doigts la poudre impalpable. Puis il tourna vers le docteur un regard ivre.
« Sérieusement, mon cher, vous feriez mieux. Je vais vous reconduire à l'hôtel. »«
Pas question de ça. Concluez-vous au suicide, oui ou non ?»«
Dame, il me semble... »«
Pardon, je ne discute pas l'intention du suicide. Peut-on seulement supposer, si j'ai bien compris, l'hypothèse ne vous semblait pas absurde tout à l'heure, qu'ayant à prendre certaines dispositions plutôt pénibles, une rédaction testamentaire difficile, par exemple, la vieille dame est, selon votre propre expression, un peu forcé la dose, la première dose, et soit morte avant d'avoir pu venir à bout de son travail ?»«
Évidemment, mais... »«
Mon cher, dit le petit juge. » Il croyait sans doute essuyer les verres de ses lunettes et frottait gravement de son mouchoir une des longues branches d'écaille. « Nous avons entre les mains la version informe, le brouillon, si vous voulez, d'un texte qui n'a pas été rédigé, qui devait l'être. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il est daté de demain, non d'aujourd'hui. La malheureuse a dû le glisser sous l'enveloppe par mégarde au moment où elle a dû perdre connaissance, plus ou moins, et se traîner jusqu'à son lit. Vous venez avec moi, Grignole ? Le sort en est jeté maintenant. Dussé-je crever, je ne lâcherai pas l'instruction. »